deux textes de l'Apocalypse, non, pour nous interroger. Est-ce que l'idolâtrie existe aujourd'hui et à quoi elle ressemble? Donc, on a chanté et on a deux chants qui sont relatifs au texte que j'ai choisi. Et donc, on ne va pas être dépaysé ce matin. Et un troisième texte que Morel a choisi également et que j'avais prévu d'évoquer. Donc, je vous invite à retrouver vos Bibles dans le livre de l'Apocalypse, hein, chapitre 2. On va lire deux lettres, des sept lettres adressées aux églises d'Asie. On va lire ensemble deux de ces lettres. La lettre à l'église de Pergame et la lettre à l'église de Thyatire. Deux lettres qui mentionnent des problèmes avec l'idolâtrie. Je lis en Apocalypse chapitre 2, verset 12. C'est la nouvelle Bible seconde. À l'ange de l'église de Pergame écrit: voici ce que dit celui qui a l'épée acérée à deux tranchants. Je sais bien où tu habites. C'est là que se trouve le trône de Satan. Tu es attaché à mon nom, tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, le jour où il a été tué chez vous, là où Satan habite. Mais j'ai contre toi certains griefs. Tu as là des gens attachés à l'enseignement de Balaam, qui enseignait à Balak comment causer la chute des Israélites en les incitant à manger des viandes sacrifiées aux idoles et à se prostituer. De même, tu as toi aussi des gens qui sont pareillement attachés à l'enseignement des Nicolaïtes. Change donc radicalement, sinon je viendrai à toi bientôt et je leur ferai la guerre avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée. Et un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Et l'église de Thyatire en suivant, verset 18. À l'ange de l'église de Thyatire écrit: voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a des yeux comme un feu flamboyant, et celui dont les pieds ressemblent à du bronze. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance. Et je sais bien que tes œuvres dernières sont plus nombreuses que les premières. Cependant, j'ai ceci contre toi. Tu laisses cette Jézabel, qui se dit prophétesse, égarer mes esclaves, mes serviteurs, à leur enseignant à se prostituer, à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour qu'elle change radicalement, mais elle ne veut pas revenir de sa prostitution. Je vais la jeter sur un lit dans une grande détresse, et ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne reviennent de ses œuvres, ceux qui commettent adultère avec elle, je ferai mourir ses enfants. Toutes les églises sauront que c'est moi qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Mais à vous, à tous les autres de Thyatire qui n'ont pas cet enseignement, qui n'ont jamais connu les profondeurs de Satan, comme ils disent, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, restez-y attachés jusqu'à ce que je vienne. Au vainqueur, à celui qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai pouvoir sur les nations. Avec un sceptre de fer, il les fera paître comme on brise des vases d'argile, ainsi que j'en ai reçu moi-même le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors on va se focaliser seulement sur le sujet de l'idolâtrie ce matin. Ces textes sont tellement riches, on a l'impression de rentrer dans un musée et puis quelqu'un qui vous conduit seulement devant un tableau et tout le reste. C'est dommage que d'être là et de ne pas regarder tout le reste. Oui, on va regarder pour se focaliser sur ce qui concerne l'enseignement sur l'idolâtrie dans ces passages. Voilà le plan que je vous propose de suivre. Il y a cette expression « manger des viandes sacrifiées aux idoles ». Qu'est-ce que ça veut dire manger des viandes sacrifiées aux idoles aujourd'hui? Alors on regardera ça avec la première épître de Paul aux Corinthiens. Ensuite on verra le contexte de ces deux lettres à l'église de Pergame et Thyatire. Et enfin, on regardera la lettre de Pergame et la lettre de Thyatire pour terminer par une conclusion très rapide. Manger des viandes sacrifiées aux idoles. Quel était le problème des chrétiens du premier siècle avec cette question de viande sacrifiée aux idoles? Et donc, dans sa première lettre aux Corinthiens, Paul répond à une question de l'église de Corinthe et il utilise pas moins de 3 chapitres là-dessus. Et tout à l'heure, Morel nous a fait la lecture du chapitre 10, qui est le dernier. Mais au chapitre 8, il commence ainsi, je vous lis quelques extraits. Pour ce qui est de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Plus loin, versets 8 et 11. Or, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Veillez toutefois à ce que votre liberté, de manger ou pas, des viandes sacrifiées aux idoles, entre parenthèses, ne deviennent pas un obstacle pour les faibles. En effet, si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idoles, lui qui est faible, ne sera-t-il pas encouragé dans sa conscience à manger les viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi, à cause de ta connaissance, le faible ira à sa perte, ce frère pour lequel Christ est mort. Et donc, on a relu le texte tout à l'heure, le chapitre 10, que je ne vais pas relire, donc ce texte qui rapportait les jugements d'Israël pendant les 40 ans de marche dans les déserts. Et donc, combien ils sont un avertissement pour nous en ce qui concerne l'idolâtrie, la façon dont eux sont tombés et une mise en garde pour que nous ne les imitions pas. Je vais simplement relire à la fin, au verset 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt celui de l'autre. Manger de tout ce qui se vend au marché, ça vous pose des questions par motif de conscience. Est-ce que c'est une viande que je trouve au marché qui a été sacrifiée à une idole ou pas? Car la terre, avec tout ce qu'elle contient, appartient au Seigneur. Si un non-croyant vous invite, que vous acceptez d'aller manger, mangez tout ce qu'on vous présentera sans vous poser de questions pour motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit, c'est de la viande offerte aux idoles, n'en mangez pas à cause de celui qui vous a informé et par motif de conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre personne. Et la pensée de Paul, il la résume au verset, chapitre 10, verset 31. Je le relis, on l'a lu tout à l'heure. Ainsi donc, que vous mangez, que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. La merci est clé. Que vous mangez, que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez une cause de faux pas, ni pour les non-juifs, ni pour les juifs, ni pour l'église de Dieu. Faites comme moi, je m'efforce en tout de plaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Comment transposer le problème des chrétiens du premier siècle à notre situation aujourd'hui? Je vais prendre l'image avec ce qui se passe dans le monde musulman, qui est beaucoup d'actualité. Est-ce que c'est grave de consommer de la viande halal? C'est une question qu'on pourrait se poser. Est-ce que c'est grave de consommer de la viande halal? Et donc l'apôtre vient de donner des réponses. Est-ce que je peux assister à la fête de Eid al-Adha? Excusez-moi pour la prononciation. C'est la fête qui commémore le sacrifice d'Ismaël. Ah! Est-ce que quand on m'invite, est-ce que je peux y aller? Moi qui crois que c'est le sacrifice de Isaac, est-ce que ça pose problème ou pas? Mais encore, tout ça, on n'est pas des musulmans, donc les problèmes ne sont pas, ne font pas beaucoup de pression comme il pouvait y avoir à l'époque. Mais si moi je vis dans un pays musulman, que je suis de culture musulmane, que je sois quelqu'un qui s'est converti à Jésus-Christ, qu'est-ce que je dois répondre quand on m'invite à la fête de Aïd el-Adha? Que dois-je faire? Voilà une question que des chrétiens, devant lesquels aujourd'hui des chrétiens se trouvent. Qu'est-ce que je vais faire? Tout le monde y va, et moi? La pression monte. Mais encore, la fête de Aïd el-Adha, c'est qu'une fois par an, alors que dans l'Antiquité, la vie sociale, toute la vie sociale se déroulait dans les temples d'idoles. C'était les sortes de salles des fêtes de l'époque. C'était incontournable. Et en plus, on pouvait y consommer de la viande gratuitement. Elle était offerte, c'était gratuit, on était invité, on pouvait manger tant qu'on voulait la viande. C'était pas tous les jours. Consommer de la viande, c'est pas tous les jours. Et tout le monde fait cela. Et des cas de conscience se posaient. À nos frères et sœurs du premier siècle. Voilà ce qu'on peut mettre derrière ce mot, ce que je vous propose, du moins de mettre derrière ce mot qui concerne la viande sacrifiée aux idoles. Passons maintenant aux lettres aux sept églises. Ce n'est pas que le contenu d'une lettre qui fait son importance. Ce qui fait l'importance d'une lettre, c'est qui l'envoie, qui est l'expéditeur. Si vous recevez une lettre de l'administration fiscale ou une lettre du commissariat, vous n'allez pas de la gendarmerie, vous n'allez pas la considérer de la même manière que si c'était une lettre d'un quelconque, de quelque chose que vous avez par ailleurs. Cette lettre-là, elle est importante parce que l'expéditeur, c'est pas n'importe qui. Voici un. Je vais faire la lecture du chapitre 1 de l'Apocalypse. Révélation de Jésus-Christ. Dieu la lui a donnée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt, et il l'a fait connaître en envoyant son ange à son serviteur Jean. C'est Jean qui a écrit. Celui-ci l'a attesté tout ce qu'il a vu de la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Verset 3. Heureux celui qui lit, ce qui écoute les paroles de la prophétie et garde ce qui s'y trouve, ce qui est écrit, car le moment est proche. Verset 4. De la part de Jean aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. À celui qui nous aime, on l'a chanté tout à l'heure, qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des prêtres pour Dieu, son Père. À lui, soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Le voici qui vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Et moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans la persécution, le royaume et la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu, du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Elle disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Et je me retournai pour voir quelle était la voix qui me parlait. M'étant donc retourné, je vis sept chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe, portait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête, ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix ressemblait au bruit de grandes eaux. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort, du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui doit arriver. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, le voici. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Jésus-Christ, comme on ne vous en a jamais parlé. Le livre d'Apocalypse est différent de tous les autres. Révélation de Jésus-Christ, il commence ainsi. Tout est différent, tout est plus fort, tout est plus intense dans ce livre. Et si vous aimez les expériences fortes, les sauts à l'épingle, sauts à l'élastique, comme ça, c'est ça pendant tout ce livre. On passe par des moments très hauts et puis des moments qui sont dramatiques. Jésus-Christ, comme on ne vous en a jamais parlé. Et ce sont des lettres pour aujourd'hui. Le livre est riche et complexe, mais l'ensemble des chrétiens considèrent que les lettres aux 7 églises sont destinées à l'ensemble des églises locales, jusqu'au retour de Christ. Et on a entendu ce que l'Esprit disait aux églises, et non pas à l'église de Pergame ou de Thyatire, mais aux églises. Elle résume l'ensemble des situations qu'une église locale peut traverser, et donc les lettres aux églises de Pergame et Thyatire, avec la mention de ces chrétiens qui se livrent à la débauche et qui mangent des viandes sacrifiées aux idoles, ces lettres sont pour nous aujourd'hui. Voyons voir l'église de Pergame en prise avec l'idolâtrie. Nous allons traverser le musée que constitue cette lettre pour nous focaliser sur une seule œuvre qui concerne l'idolâtrie. Nous allons laisser de côté ce qui concerne le trône de Satan qu'on a lu. Les informations historiques sur Pergame, c'est très intéressant et très riche. Je vous propose de retenir seulement que Dieu connaît les circonstances de chaque église. Il connaît aussi nos circonstances, notre histoire personnelle, notre arrière-plan, notre handicap particulier à chacun. Alors, inutile de nous comparer les uns aux autres spirituellement. C'est le grand piège. Comparons-nous seulement à ce que dit et ce qu'on comprend des paroles de Jésus-Christ. Comparons-nous par rapport à l'évaluation de notre situation que fait la parole de Dieu. Versets 12 à 14. J'ai contre toi certains griefs. Tu as là déjà attaché l'enseignement de Balaam, qui enseignait à Balak comment causer la chute des Israélites, à les inciter à manger des viandes sacrifiées aux idoles et à se prostituer. De même, toi aussi, tu as des gens qui sont pareillement attachés à l'enseignement des Nicolaïtes. Change donc radicalement, sinon je viendrai à toi bientôt et je leur ferai la guerre avec l'épée de ma bouche. L'affaire de Balaam et Balak, nous sommes vers la fin, à ce moment-là, des 40 ans d'errance dans le désert. On y a fait mention tout à l'heure dans la lecture avant de prendre le repas. Et à la vue des enfants d'Israël, Balak, le roi de Moab, a peur. Et il veut s'offrir, se payer le service de Balaam, un prophète de l'Orient, et il lui demande de maudire le peuple de Dieu. Nombre 22 scènes. Balak envoya des messagers trouver Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur l'Euphrate, dans le pays de ses compatriotes, afin de l'appeler et de lui dire « Un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la face du pays. Il s'est installé vis-à-vis de moi. Viens donc le maudire, ce peuple, pour moi, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasser du pays, car je le sais, celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. Et Dieu, vous le savez, cette histoire, Nombre 22 jusqu'à 24, Dieu ne veut pas que Balaam aille, mais Balaam est attiré par les honneurs, il insiste et Dieu lui permet d'aller, mais Balaam devra bénir le peuple et non le maudire. Balak n'est pas content, alors Balaam lui montre un moyen de supprimer la bénédiction du peuple. Et ce moyen, c'est de le faire tomber dans l'idolâtrie. Rendre le peuple infidèle à son Dieu, c'est briser la bénédiction. Pour cela, les filles de Moab ont été envoyées vers les Israélites pour se débaucher avec elles et les conduire à adorer Baal-Péor. L'affaire de Balaam et de Balak, la doctrine des Nicolaïtes, difficile de savoir ce que c'était. Mais on peut, du temps de l'église de Pergame, on peut deviner peut-être il s'agissait d'encourager à la fréquentation des temples des idoles. Pourquoi ? Bien sûr, il faut évangéliser ces gens, c'est là où tout le monde se trouve, c'est là où il faut aller. Et puis on met sa foi à l'épreuve, on voit si on résiste vraiment, si on est solide. Et puis on est libre, on peut montrer qu'on est libre, qu'il n'y a pas un chrétien, il peut aller n'importe où. Il n'y a pas de mal à profiter d'un repas gratuit. Ou bien peut-être enseignait-il que nous avons l'Esprit de Dieu, nous sommes protégés, on peut faire aller ce qu'on veut, de toute façon, on est saint, on est à part, Dieu nous protège, et voilà, il n'y a aucun risque que d'assister à de la débauche qui accompagne les repas gratuits. Peut-être c'était ça l'enseignement des Nicolaïtes. Parlons de la sexualité chrétienne. Qui est le moteur de notre vie sexuelle aujourd'hui? Est-ce que la jouissance de son mariage, dans la reconnaissance à Dieu, est-ce que c'est ça ma vie sexuelle? Ou est-ce que c'est le mécanisme de convoitise charnelle du monde? Le danger est d'adorer le sexe au lieu d'adorer celui qui a créé la sexualité dans le cadre du mariage. Le danger est de donner une place à part au sexe. C'est quelque chose qui est à part dans ma vie. Comme si la sexualité était un passe-droit par rapport à la volonté de Dieu. Ou bien, on peut voir à l'opposé, il faut bannir la sexualité, toute forme de sexualité, même la sexualité dans le cadre du mariage, parce que c'est pas spirituel. Ça aussi, c'est un effet inverse qui donne à la sexualité une place qu'elle n'a pas. Et la sexualité débridée est une des grandes idoles institutionnelles au XXIe siècle. Tout le monde est invité à plier le genou devant elle. Et à sa façon, notre société sacrifie sur l'autel de la sexualité beaucoup d'enfants innocents. Alors attention donc aux petites voix qui disent « La sexualité avant le mariage, c'est normal. Un peu de pornographie, tout le monde regarde ça, ça stimule. » La convoitise des yeux, l'adultère, on ne peut pas faire autrement. Et avec ce parcours, la foi meurt. Elle meurt. L'église de Thyatire en prise avec l'idolâtrie après l'église de Pergame. Même chose que pour Pergame. On se fixe sur l'idolâtrie et le Seigneur trouve beaucoup de choses positives à Thyatire. Et encore une fois, le Seigneur veut notre bien. Il souligne ce qui est positif. Et quand il nous demande de changer quelque chose, eh bien, il nous encourage à le faire. Parce que là, ça semble plus grave que dans l'église de Pergame. La contamination de l'église semble beaucoup plus importante. Les versets 20 à 23. J'ai ceci contre toi. Tu laisses cette Jézabel qui se dit prophétesse, égarer mes serviteurs à leur enseignant, à se prostituer, à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour qu'elle change radicalement, mais elle ne peut pas revenir de sa prostitution. Je vais la jeter sur un lit dans une grande détresse, elle, et ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne reviennent de ses œuvres. Je ferai mourir leurs enfants, toutes les églises sauront que c'est moi qui sonde les reins et les cœurs, et je rends à chacun selon ses œuvres. Jézabel, Akab et la prophète et les prophètes de Baal. Quand on pense à Jézabel, on pense aux 450 prophètes de Baal qu'il y avait à sa cour. On pense au roi Akab et au prophète Élie qui a lancé un défi à Baal et à tous ses prophètes. Baal était le dieu des Sidoniens, c'était le dieu de la prospérité. C'est lui qui garantissait les bonnes récoltes, la fécondité des troupeaux, un dieu vraiment important. Jusqu'au moment où Élie a dit « Plus une goutte d'eau ne tombera si ce n'est à ma parole ». Un défi lancé à Baal. Qu'est-ce qu'il allait se passer? Plus de deux ans de sécheresse. Baal était déjà impuissant. Après de longs moments de prospérité, le royaume d'Israël, à ce moment-là, était très prospère. Là, plus une goutte d'eau. Qui est le chef? Baal ou l'Éternel? Et il y a été plus loin. Il défie les prophètes de Baal au mont Carmel. Quel est le Dieu qui va répondre lorsqu'on l'invoque? Et vous connaissez cette histoire où le feu du ciel descend et consume l'offrande que a préparée Élie alors qu'il ne se passe rien pour les 450 prophètes de Baal qui s'agitent pour invoquer leur Dieu. Et ensuite Élie prie l'Éternel et la pluie arrive. Qui est-ce qui donne la prospérité? Qui est-ce qui, de qui le peuple dépend? N'est-ce pas de l'Éternel seul? Baal n'est rien. Le problème d'avoir à manger, cette histoire nous fait sourire. Ils étaient bêtes, ces Israélites, de croire en Baal. Mais nous ne sommes pas une civilisation faite à 95% d'agriculteurs qui dépendent complètement de la pluie et du beau temps pour avoir de quoi manger. Pas du tout, on n'est pas dans cette situation. Nos centres commerciaux sont remplis de nourriture. Cela ne manque jamais. Il y a toujours de la nourriture. Elle est là, disponible. Bien sûr, il faut avoir de l'argent. Et même, il y a des façons de se débrouiller si on n'a pas d'argent. Savoir si nous aurons un repas demain est une question que l'on ne se pose même pas. On n'est pas dans la même situation. Alors, qui est le Baal moderne et sa Jézabel? En France, l'État-providence serait un bon candidat pour être le Baal moderne. Quand le coronavirus est arrivé, les autorités nous ont dit, quoi qu'il en coûte, nous allons protéger les Français, quoi qu'il en coûte. Jean Castex, je me souviens, avait une phrase où il exprimait toute son espoir. La science va nous trouver la solution. Peut-être c'est l'État-providence. Les marchés sont tout puissants. Ils sont au-dessus des États. C'est eux qui approuvent ou désapprouvent les décisions économiques de tel ou tel pays. Même le plus grand pays du monde, on l'a l'illustration dernièrement, avec Monsieur Trump, il faut qu'il fasse attention au marché. C'est eux les chefs, c'est eux les boss, c'est eux qui ont le pognon. Alors, Jézabel, qui serait Jézabel? Jézabel serait celle qui nous encourage à rester fidèle à l'État et au marché avant toute chose, selon mon exemple. entretenir de bonnes relations avec les autorités à tout prix, se faire bien voir d'elles, avoir leur approbation pour avoir leur sécurité. Ne pas risquer de perdre les précieuses déductions fiscales, c'est important. Jézabel serait celle qui nous fait faire des compromis avec l'argent. Normal de rechercher les niches fiscales pour payer moins d'impôts, normal de courir après les bons placements, même si c'est au prix de l'exploitation des malheureux de la terre. Normal de prendre les meilleures assurances, les meilleures mutuelles, et tant pis s'il ne reste pas beaucoup de sous à la fin pour la boîte à offrandes. Jézabel, ce pourrait être cet enseignement-là dans les églises. En conclusion, le problème de l'idolâtrie est sérieux et il nous concerne. Nous aurions tort de croire que c'est un problème du passé. Nous aurions tort de nous croire plus forts que Salomon. Être idolâtre hier comme aujourd'hui, c'est penser que nous sommes les propriétaires de ce que nous aimons. Ne plus voir que c'est Dieu qui nous a donné ce que nous aimons. Celui qui donne est plus grand que le don qui nous est fait. Et on oublie cela. Lui seul est digne d'adoration. Celui de qui, par qui et pour qui sont toutes choses. C'est aussi être idolâtre, faire reposer notre espérance ailleurs qu'en Dieu. Ailleurs qu'en Dieu. Il y a deux domaines où nous devons être particulièrement vigilants. La pureté sexuelle. La sexualité ne doit pas être notre idole. L'exaltation des sentiments. Beaucoup de personnes sont sensibles à ce qui se passe, à ce qu'ils ressentent. Et en fonction de ce qu'ils ressentent, leurs sentiments, ils vont prendre des décisions et ça va orienter leur vie. Ce sont les sentiments qui les dirigent en quelque sorte, soit pour la sexualité, soit pour la combattre. L'exaltation de nos sentiments ne doit pas être, car c'est Dieu qui a créé les sentiments. C'est lui seul qui est digne d'exaltation. La pureté sexuelle et la sécurité financière et la santé, Mammon ne doit pas être notre idole. Dieu seul doit rester notre sécurité. J'en termine là-dessus. Je vous laisse ces textes et ces réflexions. J'ai pas la prétention d'avoir tout compris moi-même. Que le Seigneur et que son esprit nous dirige et qu'il nous amène à être de ceux qui reçoivent la manne cachée, de ceux qui reçoivent le caillou blanc. Voilà, ces choses qu'on a lues et qu'on a chantées tout à l'heure. Amen.
Amen.
Oui Seigneur, nous comptons sur toi pour nous garder. Nous nous abandonnons à toi pour nous garder de l'idolâtrie. Tu es un Dieu merveilleux qui nous donne au-delà de tout ce dont nous avons besoin. Un Dieu qui veut notre bonheur par-dessus tout. Fais, Seigneur, que nous ne nous attachions pas à ce que nous recevons de toi, mais que nous nous attachions à toi, celui qui donne. Merci pour Jésus-Christ qui est celui qui est au-dessus de tout. Et il peut parfaitement s'occuper de nous. Merci de nous garder, de nous laisser reposer sur nos lauriers, oubliant également les malheureux de la terre, ceux qui n'ont pas notre bénédiction matérielle, et nous sommes heureux de constater qu'ils ont ta bénédiction spirituelle, ta richesse. Merci de ce que tu es juste, et de ce que, oui, encore une fois, on peut complètement s'abandonner à tes bras. Par Jésus. Amen.
Amen. Amen.